si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur fréquence 7. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Ce n'est pas un invité à proprement parler que je reçois, mais mon nouveau partenaire radio. Je vous présente Adrien Aymar. Bonjour Adrien.
Bonjour Lorraine.
Donc vous l'aurez compris, fini mes longs monologues. Dorénavant, je prête le micro. Et quoi de mieux pour cette nouveauté que de parler de ton sujet de prédilection, Adrien, l'histoire avec un grand H. Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas encore parlé de nature sous un angle historique et j'ai hâte de t'entendre sur ce sujet. Alors, ne perdons pas plus de temps, il me semble en plus que tu as beaucoup de récits à nous raconter et le fil rouge, ce sont les animaux.
Oui, absolument, comme tu le dis, la nature est partout et donc les animaux aussi. Malgré les frontières qu'on s'était échinées à dresser entre l'être humain et tout le reste du monde animal, malgré les barrières morales, religieuses et même scientifiques qu'on a très longtemps cherché à monter pour s'assurer que l'homme et la femme étaient bien séparés, bien à part des autres vivants, et bien malgré tout ça, les animaux nous collent au basque. Ils sont partout où nous sommes, en plus de là où nous ne sommes pas. Omniprésents dans tous les champs des sociétés humaines, économiques, matériels et sociaux, mais aussi militaires et encore politiques, culturels, religieux, symboliques, artistiques, bref, partout.
Ça, c'est de l'entrée en matière. Tu nous en dis plus ?
Eh bien, si on essaie d'imaginer les animaux qui ont leur place au sein de l'histoire humaine en Europe occidentale, on va sans doute penser aux animaux d'élevage, aux animaux domestiques, peut-être aux animaux sauvages qu'on va chasser ou pêcher, bref, aux animaux qui nous servent à nous nourrir, à nous habiller, à travailler pour nous ou à nous divertir. Mais on oublie souvent les animaux qui ont façonné notre imaginaire, nos rêves, nos histoires. Comme si les bêtes n'avaient pour nous qu'une utilité matérielle. On oublie les animaux symboles dont les images vont orner les écus, les armes, les drapeaux. On oublie les animaux mythologiques, les animaux des récits, des légendes, les animaux des fables et des contes, des histoires qu'on se raconte. Des histoires pourtant qui peuvent avoir une importance centrale dans nos sociétés. Pourtant, comme le dit l'historien des symboles et des animaux Michel Pastoureau, l'imaginaire est une réalité. Étudier une société en oubliant tout ce qui relève de l'imaginaire et du culturel, c'est donc n'étudier qu'une partie mutilée de cette société.
Et qu'est-ce que nos imaginaires au fil de l'histoire nous racontent sur notre rapport au vivant ?
Eh bien, énormément de choses. Ces représentations en disent beaucoup sur une société, sur des individus, sur des idées politiques ou religieuses. Et bien sûr, elles peuvent dire aussi beaucoup sur le rapport aux animaux bien réels et le rapport aux vivants non humains dans leur ensemble. Mieux, ça peut montrer à quel point notre rapport au monde, notre rapport aux autres et aux vivants dépend de notre culture, de notre éducation, de nos croyances, de nos mythes fondateurs. Un exemple de point de vue culturel, si je te demande quel est le roi des animaux par exemple.
Eh bien, si j'écoute mes a priori culturels, je dirais le lion.
Exactement. L'écrasante majorité des gens auraient probablement répondu la même chose. En tout cas, en Europe et à notre époque. En Afrique ou en Amérique précolombienne, on aurait pu répondre tout à fait autre chose. Et même ici, en Ardèche, si on avait posé la même question à quelqu'un il y a un bon millénaire, sa réponse aurait été différente. Il aurait probablement choisi l'ours. Pourquoi l'ours ? Eh bien parce que pour les peuples d'Europe du Nord pendant l'Antiquité, les Germains, les Celtes, et même encore au début du Moyen-Âge, l'ours est l'animal le plus puissant auquel on est confronté, sans prédateur naturel. On connaît le lion, hein, on sait à quoi ça ressemble, même au nord de l'Europe, y a des lions dans la littérature, dans les histoires, les décorations, les symboles, dans les ménageries des princes aussi. Mais ces lions, ils ne sont pas présents dans la nature. Le commun des mortels n'y est pas confronté dans le réel, contrairement à l'ours. En plus, bon, l'ours est l'animal qui ressemble le plus à l'humain, c'est finalement quasiment un gros humain avec plus de poils. Il peut s'asseoir sur ses fesses, il peut manipuler des choses avec ses mains, il peut se dresser sur ses deux pattes, il est omnivore, donc il nous ressemble beaucoup. Et dans ce contexte, on va possiblement imaginer l'ours comme un parent, comme un cousin, voire un ancêtre. Il y a beaucoup de récits, même au Moyen-Âge, de copulation entre un ours et une femme humaine, qui va donner naissance parfois à un être hybride, sauvage, un peu monstrueux, et d'autres fois à un être humain, un garçon en général qui va hériter de la force de son père ours. Des dynasties entières peuvent donc descendre d'un ancêtre ours. Donc c'est vraiment pas un animal comme les autres. Même quand on en a peur, on le respecte un peu comme un être à part. Et puis là-dessus arrive le christianisme, et avec lui un système de pensée très binaire, très manichéen, où surtout Dieu a créé l'homme à son image, ce qui différencie fondamentalement, absolument, l'homme des autres animaux. On appose une frontière inaltérable entre l'humain et le reste du vivant. Donc il faut lutter contre tout ce qui pourrait entretenir la confusion, tout ce qui rend perméable, poreux, cette frontière, il faut l'anéantir. Donc dans ce contexte, l'ours c'est un gros problème. Il est beaucoup trop adoré, il ressemble beaucoup trop à l'homme, et cette ressemblance, elle est beaucoup trop suspecte. Donc on va déclarer la guerre à l'ours, on va encourager les grandes chasses à l'ours sous les Carolingiens, et on va aussi et surtout s'attaquer à lui en tant que symbole. On va tout faire pour le rendre pâteau et ridicule. On va se montrer complaisant avec les monteurs d'ours. Bref, on fait tout pour le dévaloriser. Et il lui faut donc un remplaçant comme roi des animaux, et ce remplaçant, ce sera le lion.
Mais alors, pourquoi le lion ?
Eh bien, le lion, il appartient plus à une culture méditerranéenne, comme le christianisme. C'est un animal plus biblique. D'ailleurs, il n'est pas toujours vu en bonne part dans la Bible, mais ça reste l'emblème de la tribu de Juda, qui est celle dont est issu Jésus. Donc le lion devient une sorte d'emblème du Christ. En plus, c'est un animal exotique, donc les populations européennes n'ont pas d'affinité ancestrale avec lui, contrairement à l'ours, donc c'est un symbole plus contrôlable. C'est comme ça que le lion est petit à petit devenu le roi des animaux dans la culture européenne, alors qu'il n'est même pas présent géographiquement en Europe.
Et donc, ce qui va être aussi particulièrement intéressant, c'est de se pencher sur les représentations animales dans d'autres cultures que la nôtre, pour nous aider à remettre en question notre façon de penser et d'ouvrir d'autres horizons philosophiques. À notre époque, où on se rend compte que notre rapport au vivant nous mène à la catastrophe, ça peut être pas mal de s'inspirer d'autres choses et d'aller voir ce qui se fait ailleurs.
Exactement. Par exemple, avec l'animal qui est un des plus sujets à débat en France, le loup. Les loups, en France, ils posent de sérieux problèmes, notamment aux éleveurs, parce qu'ils s'en prennent à leurs bêtes. Bon, un loup, c'est un carnivore, c'est un chasseur, donc pour se nourrir, il chasse, et un mouton, c'est facile à chasser. Rien de plus normal, sauf qu'en tuant les bêtes des éleveurs, eh bien, il leur fait porter de lourds préjudices. Donc, très schématiquement, on va avoir dans le débat les pro-loups et les anti-loups. Et chaque camp va être persuadé que l'un a raison et l'autre a tort. Parce que notre culture nous pousse au manichéisme. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit c'est bien, soit c'est mal. Bon, on peut se douter que les loups ne se servent pas dans les troupeaux de bétail uniquement en Europe. Pourtant, chez certains peuples ailleurs, comme chez les Inuits ou chez les peuples d'Asie centrale, on a globalement une vision beaucoup moins dualiste. Pourtant, le loup fait aussi des dégâts dans les troupeaux. Mais dans des récits inuits, on va particulièrement valoriser le fait que les loups s'attaquent en priorité aux caribous vieux, faibles, malades, et donc ils vont assainir les troupeaux. En somme, ils mettent en avant le rôle de régulateur écologique, qui va profiter autant, à terme, aux populations de rennes qu'à celles des humains. Chez des peuples d'Asie centrale qui pratiquaient pendant des siècles l'élevage extensif de chevaux, c'est-à-dire que les troupeaux étaient laissés en quasi-liberté et donc livrés à eux-mêmes, on laissait la sélection naturelle agir, donc notamment les prédateurs comme les loups s'attaquer aux bêtes les plus faibles. Et grosso modo, quand les éleveurs devaient aller choisir, prélever un cheval pour ensuite le dresser et l'éduquer, eh ben il ne restait plus que les animaux les plus résistants, ce qui était exactement ce qu'on cherchait. On appelait même ça la part du loup.
J'imagine aussi que ce qui change pas mal, c'est que ces peuples n'ont pas adopté les mêmes modèles agricoles et d'élevage que chez nous.
Tout à fait. Ce qui fait que les pertes déjà sont un petit peu moins lourdes à porter, financièrement parlant, pour les éleveurs. Et puis aussi et surtout, ce sont d'autres modèles métaphysiques. Le loup est vu comme un être ayant sa place sur un territoire, voire, dans une conception animiste, comme une personne non humaine. C'est-à-dire que c'est pas un humain, mais ça reste une personne. Il a donc une légitimité à part entière à exister. On ne fonctionne pas du tout en termes d'utilité ou de non-utilité à l'homme. Donc le loup, c'est ni une bête cruelle assoiffée de sang, et entre guillemets inutile, qu'il faut abattre systématiquement, mais c'est pas non plus un animal sacré qu'il faut protéger à tout prix au détriment des troupeaux. C'est juste qu'on le respecte comme un autre habitant du milieu, comme une sorte de voisin. C'est donc un rapport aux êtres, mais aussi au milieu, qui est complètement différent.
Un autre exemple, il me semble, qui est très parlant, c'est celui du singe.
Oui, alors dans le Moyen-Âge occidental chrétien, le singe est en général très mal vu, surtout parce qu'il ressemble beaucoup trop aux humains, un peu comme l'ours. Et dans la pensée chrétienne médiévale, on trouve très gênant qu'il y ait un être qui nous ressemble autant, mais qui est pourtant un animal sauvage, donc avec un comportement d'animal sauvage. Ça nous confronte trop à notre propre animalité. Ça rend perméable cette fameuse frontière entre l'humain et les autres animaux. Donc on ne peut pas l'admettre. La scolastique, c'est un grand courant de philosophie chrétienne qu'on enseigne dans les universités du Moyen-Âge, va même décider que le singe ne ressemble pas à l'homme par nature, mais par imitation, par artifice. Il fait semblant de nous ressembler. Il nous singe, il nous imite. D'ailleurs, le mot singe en latin, c'est simius, ça veut dire imitateur, et ça a la même racine notamment que simulation. Donc il triche, il nous trompe, ce qui ne peut en faire que l'animal du diable par excellence. Alors que dans d'autres cultures, qui ont un contact beaucoup plus direct avec les singes, on les honore justement parce qu'ils ressemblent aux humains. Du coup, ça peut être que des cousins, donc on assume cette ressemblance, on en est même plutôt content. En témoigne par exemple le nombre impressionnant de temples en Asie du Sud, au sein desquels les singes évoluent en totale liberté. C'est lié au fait que dans le Ramayana, une épopée mythologique hindoue, le peuple singe, qu'on appelle les Vanara, sont vus comme un peuple sage et courageux. Et le plus connu d'entre eux, Hanuman, accompagne le héros Rama, l'aide à accomplir sa quête, à vaincre ses ennemis, et il est considéré comme l'archétype de la bravoure et de la fidélité. Le peuple singe est traité dans le Ramayana comme le serait un peuple humain. Et d'autres peuples, à Bornéo par exemple, comme les Dayak, voient aussi en l'orang-outan une société parallèle à celle des hommes, une tribu avec son roi. Le mot orang-outan même veut d'ailleurs dire une personne de la forêt en indonésien. Et même chez les Égyptiens de l'Antiquité, le babouin, comme l'ibis, était l'animal sacré de Thoth, le dieu de la science et de l'écriture. Donc on lui confie là aussi une grande sagesse.
Merci Adrien pour ce cours d'histoire passionnant. Ce qui ressort, c'est notre empreinte profonde à cette logique très manichéenne qui influence encore aujourd'hui notre manière d'appréhender les problématiques modernes. Je retiens aussi l'idée que c'est d'observer ce qui se passe ailleurs sans pour autant tomber dans un autre cas de binarité qui consisterait à croire que nos sociétés occidentales ont tout faux et que d'autres cultures auraient, elles, tout juste.
Ouais, et ça c'est très important de le dire. J'ai beaucoup parlé négativement du christianisme parce qu'il apporte une vision manichéenne, mais d'une part c'est pas la seule religion ou courant de pensée à le faire, et surtout, d'autre part, dans le christianisme aussi, il y a des courants intéressants, notamment ceux qui s'inspirent de certaines phrases de saint Paul ou de l'enseignement de saint François d'Assise pour croire en une communauté des vivants. D'ailleurs, il y a une très belle histoire qui met en scène saint François, c'est celle du loup d'Agubbio. Agubbio, c'est un village en Italie dans lequel un grand loup terrorisait les habitants en s'attaquant autant au bétail qu'aux humains. Donc saint François arrive dans ce village, va voir le loup et lui intime l'ordre, au nom de Dieu, d'arrêter de faire du mal à qui que ce soit. Et le loup obéit. Bon, rien d'extraordinaire, des histoires de saints qui se font obéir des fauves, il y en a plein. Avec le pouvoir que leur confère Dieu, ils arrivent à dompter les loups, les ours, les lions, les serpents et à les faire se comporter comme ils le veulent. Mais là où cette histoire est plus intéressante, il me semble, c'est que François continue à parler avec le loup. Et il lui dit qu'il comprend bien que s'il a commis tout ce mal, c'est uniquement parce qu'il avait faim. Il lui propose donc un pacte. Il ne doit plus attaquer ni les bêtes ni les humains, et en échange, les habitants de la ville lui donneront à manger et tout ce dont il aura besoin. Et après ça, le loup vient pacifiquement et courtoisement demander sa nourriture aux villageois qui la lui donnent avec bienveillance. Veille à ce qu'il ne manque de rien. Et le loup meurt quelques années plus tard de vieillesse, ce qui plonge le village dans la tristesse. Bon, c'est une histoire que je trouve très belle, car elle exprime de la compassion et surtout de la compréhension envers l'animal qui est pourtant vu presque comme un ennemi de l'humanité. Donc la nature est partout, oui, dans nos vies, dans nos imaginaires, et la cohabitation et l'entraide aussi, il suffit de vouloir la chercher.
On va terminer sur cette belle conclusion. Merci Adrien de nous avoir fait découvrir ton univers captivant. Bienvenue dans l'équipe. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.